Il est entre 18h15 et 18h30 sur Jet FM. Il est à peu près l'heure d'écouter Retransmission.
Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Bonjour et bienvenue dans Retransmission. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration de L'île inventée, nom du livre écrit par Christiane Vadney. Réalisé par Rhizome, Arkham-sur-Loire et en collaboration avec La Quadrature, la série de podcasts Cosmogonie de L'île inventée nous emmène découvrir l'île imaginaire aux mille facettes de l'autrice. Dans cet épisode 6, Les deux tortues, nous allons en apprendre plus sur le mythe fondateur de L'île inventée. Bonne écoute!
Bonjour et re-bienvenue au sixième épisode de Rencontre d'auteur, donc de cette série spéciale où on s'entretient avec Christiane Vadney de son dernier livre L'île inventée. Christiane Vadney, écrivaine québécoise, est mon invitée, mais nous avons aussi en studio les invités de Christiane, à savoir Louis-Émile Grenier et Flavie Ruse, qui sont soi-disant archéologues.
Pardon? Soi-disant des...
Non, mais...
Bon, OK.
Ça démarre bien.
Christiane, si vous me le permettez... Je m'adresserai cette fois directement à vos collègues.
Bah pour une fois.
Madame Ruse et Monsieur Grenier. Vous avez souvent mentionné que vos recherches sur l'île inventée tendent à confirmer votre hypothèse de travail. Bon. Mm-hmm. Avant que vous me coupiez encore une fois la parole pour déballer ce qui, je suis sûr, vous brûle les lèvres, j'aimerais que vous me disiez, mais quelle est donc cette fameuse hypothèse?
Non, mais vas-y, réponds-toi, parce que moi, il m'énerve. Vas-y.
Elle est fort simple. L'île inventée a existé. Et en s'extrayant de l'éthique et des habitudes scientifiques modernes, ses habitants ont pu réaliser des avancées majeures dans de nombreux domaines et peut-être proposer une alternative à nos sociétés industrielles. Voilà.
En s'extrayant de l'éthique, je ne vous confierai pas mes enfants si vous pensez que se retirer de l'éthique est une bonne chose.
En tous les cas, le débat sur la véracité est plus que vain. Comme toutes les sociétés, celle de l'île inventée avait ses légendes, ses mythes. Et en tant qu'archéologue, ils sont autant d'éléments informatifs pertinents.
Oui, il y a vraiment beaucoup de questions qui restent sans réponse à propos de l'analyse des bulles sonores. Et en ce moment, on est vraiment simplement trois à pousser la recherche.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Christiane, simplement trois? Vous vous incluez? Vous êtes chercheuse maintenant? Je vous croyais écrivaine.
Éditrice.
En tout cas, si je continue à jouer le jeu, disons qu'on joue le jeu, je pourrais arguer que cette pseudo-civilisation n'est pas ancienne. Il doit donc exister tout plein de traces et d'artefacts qui n'ont pas le temps de disparaître. Ça fait sens?
Non. En fait, il y a beaucoup de vêtements, de bâtiments qui devaient être biodégradables parce que par leur mode de vie végétale, les insulaires ont vraiment eu un impact minimum sur l'île. Il faut aussi compter la capacité de destruction de la flore locale qui, à tout le moins, transforme perpétuellement ce territoire-là. Donc, c'est difficile de dire pour l'instant ce qui est dû aux insulaires ou non.
C'est un argument bien pratique. Bon, écoutez, on va enchaîner. Je crois qu'il reste un truc à écouter, Christiane.
Oui, tout à fait. Il s'agit d'un mythe, un récit étiologique qui raconte donc la fondation de l'île et qui tente d'expliquer autant la brise noire que la relation complexe qu'entretient l'île avec les insulaires. C'est vraiment une bulle sonore particulière parce qu'on y entend le père d'Ancilou juste avant qu'il se mure dans le silence.
Bon, c'est parti. Ouf! C'était fort désagréable, ça. Oui. C'est quoi ça, Christiane?
Oui, je...
En fait, ça aurait dû être un mot de Sépalin Loup, le pardon de si, l'auteur de L'herbier des émotions, mais je suis aussi surprise que vous, là, on aurait dit...
Oui, désolé, c'était oui. La version brute, comme on l'a récupérée.
Oui, pardon. Oui.
Elle était très, très, très endommagée. On a dû faire un immense travail de nettoyage.
Oui, tu te rappelles, on a eu le même problème avec les bulles sur l'école Carmen Black.
Exact. Voilà, ça
nous arrive de temps en temps. En fait, je vous explique ce qui se passe, c'est que nous pensons que lorsqu'une bulle sonore n'est pas enterrée là où s'est déroulée la captation, elle se retrouve particulièrement parasitée. Voilà.
C'est ça.
Et ici, il nous semble que Sépalin Loup est en train de s'enregistrer en marchant, en traversant une partie de l'île. Et nous avons retrouvé sa bulle sonore autour d'un des bassins d'algues. Voilà.
L'immense majorité des bulles sonores encore actives s'y trouvent d'ailleurs.
Oui.
On en est venu à la conclusion que les bassins servaient de lieu de conservation des bulles sonores.
Oui, tout à fait.
Et celles que nous vous présentons sont parmi les mieux préservées.
Excusez-moi, mais c'était loin d'être du son intact, voire écoutable.
Ben oui, tout à fait, vous avez raison. Mais... tiens, Émile,
oui.
Fais-lui entendre la bulle des épaves, juste avant que nous la traitions.
Ah oui, c'est vrai.
Vous verrez, on croirait des cris stridents tout du long.
Ah oui, au début,
Non, merci.
Il faut écouter ça, c'est insupportable. C'est insupportable.
C'est
absolument pas nécessaire. Non.
Émile?
Allez, j'en vois. Hein. Attention, bouchez-vous les oreilles quand même. Parce que... voilà, bon, allez, j'en vois.
Mais arrêtez-moi ça, Martin, coupe ça. Monsieur Grenier, Madame Rue, s'il vous plaît, dites-lui. Non, mais...
Émile, t'as la version B?
J'ai mis la version B?
Non, tu as la version B, c'est pas la bonne.
Ah oui, non, j'ai la version B, oui, c'est celle-là qu'il faut que je mette.
Oui.
Ah, mince, pardon, excusez-moi.
C'est que... Voyez-vous, lorsque nous nettoyons les bulles sonores, on commence toujours par la dévégétalisation. Il s'agit d'une étape qui n'était peut-être pas utile sur l'île, parce que leur matériel d'écoute utilisait des larves de coléoptères qui, en boulottant le substrat, entouraient la bulle de salive pour permettre un débullage plus propre du son. Une technique mieux adaptée à la lecture de bulles vivantes. Hein ? Vivantes presque comme une plante. Bon, bref, voici la même bulle. Après la dévégétalisation.
Alors voilà, vous allez voir la différence, là.
Ça, c'est sûr.
Ce même son, un son, contient la créativité, la surprise, l'émotion et l'étonnement.
Alors, juste pour préciser quand même, c'est vraiment à l'étape de la purification sédimentaire que l'on commence à percevoir vraiment ce qui se cache, ce que cache la bulle. Hein.
Celui qui finit. Ainsi, on cultive la créativité et la surprise. L'invention et l'étonnement.
Et je suis pas sûr que nous ayons amené le résultat lorsqu'enfin l'on recomposte les derniers débris sonores.
Ça nous a pris des mois pour trouver la technique d'après les vieilles notes des archives sémaphores.
Bon, ben faites-moi signe si vous avez encore besoin d'un animateur. Là. Vous faites ça très bien entre vous.
C'est bon, Flavie, c'est bon. Martin a retrouvé la bonne version du mythe fondateur de C'est pas l'un loup. Hein. Je balance le truc, hein. Je le balance.
Balance.
Vas-y, Martin, vas-y!
Non. Oui, non. Bien sûr que non. Non, oui, mais encore. Bien sûr. Tu le sais, oui ou non? Tu le sais pas? Mais moi, je le sais. Moi, je le sais. C'était la journée où tout devait rester immobile. Ou bien, ne devait voir le jour, où tout devait retenir son souffle, où rien ne devait grandir, ou même périr. Pendant cette journée qui se produisait une fois l'an, aucune naissance ne devait avoir lieu. Tu vois, l'univers est fou. Oui, je sais. Vous dites ça de moi, que je suis fou. Oui, le père de Hansi est fou. Et pourtant, elle... Ouais, elle... Non, je ne parle pas de Hansi. Celle dont je parle n'a jamais porté de nom comme si elle n'avait jamais existé. Elle a choisi de mettre au monde ce jour-là deux tortues jumelles. Mais, comme elle avait bravé l'interdit, l'univers la frappa d'une malédiction. Tes deux enfants seront séparés, vivront éloignés, sans connaître l'existence de l'autre. Jusqu'à ce qu'un plus grand déséquilibre encore ne doive être corrigé, jusqu'à ce qu'une quête ne soit amorcée. Ouais. Malédiction. Décidément, le monde est fou, hein?
Ouais! Encore plus fort! Oui, plus fort! Oui, encore plus fort! Encore!
ne pouvant supporter cette vie de solitude pour sa progéniture, sans même vraiment avoir pu les embrasser et les chérir, puisque le jour ne s'était même pas levé une seule fois depuis leur naissance, elle mourut en laissant les deux tortues à leur destin. Ce destin, aucun ne savait encore ce qu'il lui réservait. Et c'est ainsi que les bébés chéloniers se séparèrent. Malgré le fait qu'elles ne vivraient jamais ensemble, qu'elles ne connaîtraient probablement jamais l'existence de l'autre, les bébés tortues quittèrent leur lieu de naissance, là où leur histoire de vie avait commencé. Séparés, oui, séparés. Oui, 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 séparés, mais tout de même unis par certains éléments qui pourraient paraître étranges pour des êtres étrangers à leur propre destin comme vous. Les deux décidèrent de vivre dans un univers aquatique. L'eau étant la base de toutes choses. Et plus étrange encore. Plus étrange encore. Lié par la capacité à l'une de grossir. Et l'autre rapetissait. Mais au même rythme. La vie elle-même, elle est parfois folle. Hein? Oui. Parfois, elle est folle. Et courit la première tortue, la plus petite. Elle a voyagé à travers le monde. Elle a fait des rencontres plus extraordinaires les unes que les autres. Et elle vécut aussi paisiblement sa vie, se déplaçant lentement au rythme du temps. Comme moi, quand je suis dans mon jardin, au rythme du temps. Pour sa grande sœur, Kouyele, le destin fut un peu différent. Après avoir grossi jusqu'à ne plus pouvoir, elle s'installa, entourée d'eau, pour ne plus se déplacer que de quelques centimètres par an. Est-ce la raison de la malédiction qui avait accompagné leur naissance? Personne ne sait. Mais Kouyende se rendit rapidement compte qu'elle avait une prédisposition à attirer des éléments extérieurs. Trop souvent nuisibles ou perturbateurs, qui s'installaient confortablement sur son dos. Même si chaque nouveau visiteur apportait son lot de tourments, Kouyende réussissait toujours à s'en accommoder, à trouver une façon de vivre en harmonie. C'est ainsi qu'au fil du temps, les arbres immenses, la nature luxuriante, tout y avait trouvé sa place, tout y était à sa place. Malgré cela, Kouyende sentait qu'elle n'était pas complète. Qu'il lui avait toujours manqué quelque chose. Mais quoi? Quand ces nouveaux venus arrivèrent, Kouyende fut confiante qu'elle trouverait le moyen de communiquer, de cohabiter, comme elle avait toujours fait. Peut-on encore ici blâmer la malédiction? Oui, non, oui, peut-être. Mais le fait est que rien n'y fit. Sur ce coup-là, moi-même j'ai trouvé qu'elle était folle. Mais chut, faut pas qu'elle entende. Kouyende s'est rendu compte qu'elle n'était pas comprise, qu'elle avait beau s'enrouler, se braquer, cajoler, rien n'y faisait. Et les intrus exploraient, s'installaient, se mettaient à leur aise. Et après plusieurs tentatives, se soldant toutes par des chaussettes, Kouyende, se sentant impuissante devant ces intrusions et devant une telle incompréhension de sa façon d'être et de vivre, décida de quitter son chez-elle. Elle ne pouvait quand même pas partir et tout abandonner, oui. Alors, elle laissa son esprit veiller sur son corps envahi et permit à son âme de quitter. L'âme de Kouliéné avait une mission si simple, mais tellement compliquée à la fois. Trouver l'origine du déséquilibre profond de ses énergies depuis et que les nouveaux arrivants s'étaient établis. Mais surtout, trouver cette partie qui lui manquait. L'âme de Kouliéné entreprit donc le voyage qui la mènerait jusqu'à la matrice, la mère de toutes choses, l'utilis de l'univers. L'âme de la géante tortue avait quatre questions simples pour la matrice. 1. Pourquoi était-elle aussi mouse comme reptile? 2. Qui était-elle? 3. D'où venait-elle? Et surtout, quel était cet élément-là qui lui manquait cruellement? Croyez-vous que l'âme de Kouliéné est repartie avec toutes ses réponses? Ceci était mal connaître l'enfanteresse de toute vie, la créatrice de tout élément de l'univers. Non, c'était mal la connaître. Elle lui fit plutôt faire un autre voyage qui la mènerait cette fois-ci à son lieu de naissance originel, le placenta qui avait vu elle et sa sœur naître. Bien que l'âme de Kouliéné ignorait encore l'existence de sa sœur. Ben oui. Mais là, je trouve que l'univers a fait preuve de sagesse. Des années après avoir accablé Kouliéné, Kouli et leur mère de sa malédiction, la matrice de toutes choses retira la malédiction pour permettre à l'âme de Kouliéné de continuer sa route. Kouli, à l'autre bout de la terre, ressentit une forte impulsion, une intuition qu'elle devait partir. Bien qu'elle n'y ait pas porté attention plus qu'il ne faut, elle avait toujours su qu'il lui manquait quelque chose. Oui, quelque chose. Une chose qui pouvait bien être la plus importante de sa vie. C'est avec l'intime conviction qu'elle allait peut-être enfin trouver cette chose que Kouli chemina lentement vers un lieu inconnu. Lorsqu'elles arrivèrent, les deux tortues, Kouli et Kouliéné, chacune au bout de son chemin, au placenta qui était à l'origine de leur naissance, mais aussi de leur malédiction, la terre se mit à vibrer sous leurs pieds et les deux tortues comprirent qu'elles devaient creuser cette terre qui les avait enfantées pour espérer trouver réponse à leur quête. C'est ainsi qu'elles creusèrent encore en se regardant de temps en temps. Cet être à la fois différente et pourtant semblable à un double d'elle-même. Arrivé au dernier coup de pioche, se tenant dos à dos, Kouli et l'âme de Kouliéné surent qu'elles y étaient toutes les deux dans un même lieu. Reformer un tout, une diade, partager cette énergie qui manquait à l'autre, qui leur permettrait de retrouver l'équilibre. Pour ce faire, l'âme de Kouliéné et l'âme de Kouli devaient libérer corps et esprit pour se réunir en un seul et même tout. Cette âme unique devait ensuite revenir sous la forme d'un être humain qui naîtrait de l'orteil de l'enfant millénaire qui se met au monde chaque matin et naît partout. L'enfant aurait ainsi la lourde tâche et la belle tâche de raconter encore l'histoire de Kouli et de Kouliéné afin que toute chose, tout être comprenne que l'équilibre peut être atteint lorsque les deux parties d'un ensemble prennent la peine de s'écouter, d'essayer de se comprendre, de trouver les moyens pour communiquer, pour vivre en harmonie. L'histoire de Kouli et Kuriende, l'histoire qui vous raconte votre histoire. Mon soir arrive et je retourne de là où je viens. Demain, et je parle du grand demain, du long en demain, une âme naîtra. Votre âme, l'âme de l'île inventée. Mais est-ce que tu sais que cela arrivera seulement si les habitants de l'île apprennent à raconter l'histoire de Kuri et de Kuriende? Est-ce que tu sais que les habitants de l'île croient qu'ils vivent en paix, que tout va bien? Mais non! Les insulaires sont fous! Ils doivent apprendre à raconter cette histoire et la raconter vraiment pour que l'enfant dans l'orteil naisse enfin et restitue l'âme de l'île. Oui. Oui. Mais ils ne le savent pas. Cette histoire, je l'ai entendue des oreilles de l'enfant qui vient au monde tous les matins et disparaît chaque soir. Voulez-vous que je vous la raconte? Est-ce que vous voulez que je vous la raconte, l'histoire? Oui? Non? Non, oui? Mais non! Ne comptez pas sur moi! Non, non, non! Je refuse de la raconter! Tu es fou! Je refuse de la raconter! J'entends que... Je suis fou! Que je suis fou, 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 fou. Mon âme me suit comme une ombre. Et je suis fou, 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 fou. Et je suis fou. Et je disparais comme l'ombre du soir. Oui, je suis fou, fou, fou. Oh oui, je suis fou.
Bon, c'était donc...
Il apparaît que mythe et réalité sont deux façons très distinctes d'aborder la réalité. Pour être plus clair, deux faces d'une même médaille.
Oui, oui, mais on va pas embarquer là-dedans, là. Là, pour tout de suite, l'émission est finie. Désolé, mais...
Ah, Christian, je t'avoue, je
suis
un peu à bout. Parce que...
Simon?
Écoutez le 6e épisode de la série Cosmogonie de l'île inventée, une production Rhizome Arcam-sur-Loire en collaboration avec La Quadrature. Cette émission est à retrouver en podcast sur jetfm.fr. Bonne soirée sur JetFM.